On va continuer dans notre série sur le survol des 66 livres de la Bible. Nous en sommes rendus au premier livre des rois. On est dans la deuxième partie parce que normalement, la première partie, on fait vraiment une introduction très générale. Là, on rentre un petit peu plus dans les détails. C'est une leçon quand même qui est assez longue. On va probablement la faire en deux semaines parce qu'il y a beaucoup de matériel là-dessus. Mais je reviens en vous disant ça, parce que je l'ai parlé la semaine dernière, mais je voudrais en reparler encore. L'étude de la Bible, si on ne fait pas ce qu'on fait là, ça, puis qu'on fait juste lire sans jamais avoir un plan d'ensemble du livre avec les principales idées, ça c'est, si quelqu'un utilise ça pour le restant de ses jours, à chaque fois que tu commences un livre, tu lis ces leçons-là, et vous le faites souvent. Il va venir un temps que vous allez avoir le plan de la Bible, presque chaque livre, dans la tête. Et ça aide énormément à mieux comprendre. Ça, j'en suis sûr. Alors, je vous recommande de lire les plans chaque fois que... En tout cas, alors aujourd'hui, on va regarder trois nouvelles facettes du livre de Un roi. Sa typologie. Vous savez ce qu'on veut dire par typologie, on parle de personnages de l'Ancien Testament qui ont des ressemblances avec Jésus-Christ et qui s'accomplissent dans le Nouveau Testament. Donc là-dedans, il y en a au moins la typologie, il y a David puis il y a Salomon. On peut prendre certaines caractéristiques de David et de Salomon et les comparer avec Jésus-Christ. Il y a maintenant aussi des leçons spirituelles et des leçons morales et on va regarder un petit peu l'ensemble du contenu du livre. Nous n'aurons probablement pas le temps d'étudier les trois facettes. Nous verrons d'abord la typologie et les leçons spirituelles ce soir. Nous vous demandons de terminer la leçon par vous-même en lisant la partie qui concerne son contenu. Alors, je vais simplement rappeler que là où j'ai pris le matériel de ce... Ceux qui sont intéressés par avoir un bon livre ou des bons livres, il est en trois tomes. Ici, vous avez Garrett Crossley, c'est un pasteur réformé baptiste anglais d'Angleterre. Lui, il avait écrit un livre sur vol de l'Ancien Testament en anglais. Ce livre-là a été traduit par Europresse. C'est un bijou. Premièrement, au point de vue doctrine, on n'a pas peur de s'écarter parce que le gars est... Il a la même opinion que nous autres théologiquement. Et lui, il prend chacun des livres de l'Ancien Testament et il fait un peu ce qu'on fait ce soir. Là. Et c'est très bénissant. Si quelqu'un veut comprendre l'Ancien Testament, Garrett Crossley, ce n'est pas des livres qui coûtent tellement cher, à peu près vingt quelques dollars chacun. Il en a trois. C'est vraiment un bon investissement. Quelqu'un qui veut comprendre sa Bible mieux, là, vous les recommande. Alors, la typologie du livre de Un roi. Alors, à l'intérieur du livre d'Un roi, on parle du roi, bien sûr, David, et aussi du roi Salomon. Et on peut dire en quelque sorte qu'il préfigure Christ en tant que roi. Même si ces deux rois humains sont loin de la nature sainte et sans péché que le Seigneur Jésus-Christ manifeste si parfaitement et si pleinement dans sa personne, Dieu consent cependant, les utiliser comme vases humains pour décrire quelque chose de la gloire et de la grandeur du Fils unique du Père, le Christ de Dieu. Les deux hommes jettent une lumière différente sur le règne de David, du Messie. David est le type de Christ engagé dans le combat. C'est le monarque guerrier. Bien sûr, je pense que vous avez remarqué que David, il était très impliqué dans les guerres, dans le livre d'un roi. Ben là, il est en train de vouloir faire une comparaison avec Christ qui est engagé dans le combat. À l'opposé, Salomon, comme son nom l'indique, est le prince de la paix. Salomon signifie « paisible ». Ce nom a la même racine que le mot « shalom », un mot riche de sens qui inclut les notions de paix, de sérénité, de calme, de contentement, de plénitude, de bon état, de bien-être et de santé. Les victoires remportées par le roi David sont la source du règne paisible du roi Salomon. On commence par le roi David. Alors, David a été oint à trois reprises. D'abord, dans la maison de son père, sur Juda. Enfin, sur tout Israël. Dieu a oint Jésus de Nazareth d'une huile de joie. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Comme David, qui étant oint roi, fut en exil, pendant que Saül régnait sur le peuple, Christ est rejeté par le monde. C'est le prince de ce monde qui règne sur la majorité des cœurs humains. Dieu avait promis à Israël de délivrer le peuple de tous ses ennemis par la main de David. Nous n'avons aucune indication que David n'ait jamais perdu une bataille. De la même façon, Christ vaincra ses ennemis et les nôtres, notamment Satan, le plus grand d'entre eux. Le Fils de Dieu est venu sur la terre pour nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds, comme on peut le lire dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 25. Et on peut lire aussi dans Ésaïe, chapitre 9, verset 6, « Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le bras, par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. » Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Maintenant, on a aussi comme type dans un roi, le roi Salomon. Alors, il symbolise le Seigneur Jésus-Christ régnant en paix après la bataille. Notre Sauveur est le prince de la paix, le Shiloh, le pacificateur, l'artisan de paix de la tribu de Juda. Comme Dieu l'avait promis à David, voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour, car Salomon sera son nom, et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. L'apôtre Paul déclare, « Le royaume de Dieu est une image de la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit, car Dieu a fait la paix par lui, c'est-à-dire Christ, par le sang de sa croix. » Le royaume de Salomon est une image du règne de Christ dans son royaume. Les différences sont cependant notables. Premièrement, le royaume du Seigneur Jésus-Christ s'étendra jusqu'aux extrémités de la terre. Deuxièmement, il se composera d'une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Troisièmement, il durera éternellement. Le roi Salomon était immensément riche. Christ l'est encore davantage et infiniment plus généreux. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Lui, qui n'a point épargné son propre fils, mais qu'il l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Romains 8, 32. Un héritage extraordinaire attend les chrétiens dans les cieux. Déjà, cette vie présente, Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4, verset 19. La sagesse de Salomon préfigure celle de Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Colossiens chapitre 2, verset 3. Le Seigneur Jésus déclara aux Juifs de son temps, « La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération, et il les condamnera parce qu'elles vinrent des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. La reine du Midi, ou reine de Séba, vint pour l'éprouver, donc Salomon par des énigmes. On peut tracer des parallèles spirituels intéressants de cette visite. La reine de Sheba peut symboliser l'homme qui cherche, vient à Christ et trouve sa pleine satisfaction en lui. Elle vint de très loin, ayant entendu un témoignage vrai de la renommée de Salomon. C'est l'image de l'évangile de Christ. De la même façon, ceux qui étaient jadis éloignés ont été rapprochés par le sang de Christ. Éphésiens 2, 13. La reine posa à Salomon des questions difficiles et il lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Il n'y eut rien que le roi ne sache lui expliquer. Dans un sens encore plus élevé, Jésus-Christ a été fait pour nous sagesse. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. La reine rendit ce témoignage surprenant. C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on n'en m'a pas dit que la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël qu'il t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. De telles paroles conviennent parfaitement à Christ et à ses heureux serviteurs. Après sa rencontre avec le Seigneur au puits, la Samaritaine retourna dans son village pour parler de lui à ses concitoyens. Après avoir eux-mêmes rencontré Jésus, ceux-ci lui répondirent en des termes semblables à ceux de la reine du Midi. Ce n'est plus à cause de ce que tu dis que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Deuxième point qu'on va regarder, c'est les différentes leçons spirituelles et morales qu'il y a dans le livre d'un roi. Premièrement, il y a le thème de la prière qui honore Dieu. Lors de la dédicace du temple, Salomon conduit l'assemblée en prière. À genoux, sur une tribune et faisant face au peuple, il lève les mains vers le ciel. Dans sa prière, il implore Dieu, lui demande de se souvenir de ses promesses et d'agir selon sa parole. On retrouve un thème récurrent. Le roi supplie Dieu d'écouter celui qui revient à lui dans la prière en confessant ses péchés et de lui pardonner. Tout au long de sa prière, Salomon loue la grandeur unique et incomparable de Dieu, ainsi que sa splendeur redoutable. Cette note fait malheureusement souvent défaut dans le culte offert à Dieu à notre époque. Ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre, qui garde l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs, qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. En son père, David, Salomon avait un modèle notoire pour sa vie de prière. Les psaumes sont le livre de prière divinement inspiré pour l'Église et les chrétiens feraient bien de s'inspirer de ces exemples sublimes pour façonner leur propre prière. Par exemple, on lit dans le psaume 8, verset 2, « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. On peut lire dans le psaume 90, versets 1 et 2. Seigneur, tu as été pour nous un refuge, de génération en génération, avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé le monde, la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Psaume 103, versets 2 à 6. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Quelques autres exemples dans les livres des psaumes, le psaume 18, verset 24. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Psaume 17, verset 6 et 7. Je t'invoque, car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui, par ta droite, les délivre de leurs adversaires. Psaume 75, versets 15 et 16. Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance par ton bras. Tu as délivré ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. Dans les assemblées chrétiennes, la prière se résume souvent à présenter à Dieu une liste de commissions. Nous lui adressons requête sur requête, sans penser un seul instant qu'il mérite aussi notre adoration, notre louange et nos remerciements. Sans mettre en avant ses œuvres merveilleuses, ses attributs et ses promesses. Le Seigneur Jésus a pourtant donné un modèle de prière quand il a dit à ses disciples, qui nous a donné le Notre Père dans Matthieu 6, versets 9 et 10. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Avant d'attendre quelque chose de lui, il convient de témoigner au grand Dieu du ciel notre respect et de lui apporter nos hommages et de nous soumettre à sa volonté. Remarquons encore que le Seigneur Jésus précise clairement à qui s'adresse notre prière. Notre Père qui est aux cieux. La révélation plus claire du Nouveau Testament concernant le Fils de Dieu ne masque pas la personne à qui nous devons présenter notre prière. Or, il se développe une tendance à prier le Seigneur Jésus-Christ, si ce n'est pas tout simplement Jésus, comme si le Père n'existait plus. Pourtant, l'examen du Nouveau Testament nous force de constater que le modèle de prière et de louange présenté consiste à s'approcher du Père. Deuxième chose qu'on va regarder, le mariage avec les infidèles. Je pense que de nos jours, ça, c'est une chose qui est de plus en plus courante. Alors, la sagesse et la connaissance de Dieu ne constituent pas des remparts infaillibles contre la chute dans de graves péchés. La passion débridée de Salomon entraîna son triste déclin spirituel. Son amour pour de nombreuses femmes, il en épousa 700, auxquelles il faut ajouter 300 concubines. L'éloigna, tout cela, ça a fait en sorte qu'il s'est éloigné de Dieu. Ces femmes l'incitèrent à servir leur Dieu. Par l'entremise de Moïse, la parole de Dieu avait mis une garde contre ce danger. L'Ancien Testament présente de manière répétée les difficultés, dangers et désastres liés au mariage des membres du peuple de Dieu avec des infidèles. Ésaü attrista profondément ses parents par son mariage avec deux femmes hétiennes. La loi interdisait le mariage avec des Cananéennes. En épousant une Philistine, Samson causa beaucoup de chagrin à ses parents. Elle était belle, mais pourquoi l'attrait de sa beauté physique était-il plus fort que la répulsion de sa laideur spirituelle? Quand les intérêts de la piété ne dirigent pas les enfants de Dieu dans le choix de leur conjoint, il en résulte une confusion irréparable, non seulement dans le domaine spirituel, mais également dans le domaine moral. Les considérations qui préservent et favorisent les intérêts de la piété, et non les pulsions ou les fantasmes, doivent guider la vie conjugale. Le présent énoncé dans le Nouveau Testament, à savoir le mariage des chrétiens dans le Seigneur, fait écho aux recommandations de l'Ancien Testament. Sous la Nouvelle Alliance, comme sous l'Ancienne, Dieu interdit aux croyants d'épouser des gens qui n'appartiennent pas à son peuple. De telles unions enfreignent le principe fondamental qui interdit aux croyants de se placer sous le même joug que les incroyants. On lit par exemple dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, « Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? » Troisième chose dont on parle, c'est le relâchement spirituel et le lien que cette chose-là a avec l'apostasie. L'apostasie, en passant, c'est s'éloigner de la foi véritable, c'est l'abandonner. L'Écriture lance des avertissements solennels contre l'apostasie, autrement dit, contre l'abandon de la foi. À propos d'Hébreux, chapitre 6, versets 4 à 6, Calvin a écrit ceci. « L'apôtre ne discute point ici de larcin, ou de parjure, ou de meurtre, ou d'ivrognerie, ou d'adultère, ou de quelque autre vice semblable, mais il parle d'une révolte générale contre l'Évangile quand le pécheur n'offense point Dieu sur un point seulement, mais renonce totalement à sa grâce. Celui qui se relâche spirituellement s'éloigne de Dieu et reprend son ancienne façon de vivre. C'est un péché contre Dieu pour lequel le pardon existe. En tant que véritable homme de foi en Dieu, David s'est rendu coupable de graves relâchements spirituels, notamment lors de son adultère avec Bathsheba et du meurtre d'Uri. Mais il s'en repentit. Salomon a-t-il apostasié? Autrement dit, renia-t-il sérieusement sa foi? Et s'éloigna-t-il définitivement de l'Éternel? Ou a-t-il simplement connu un moment d'égarement et de relâchement? L'idolâtrie qu'il pratiqua dans son âge avancé semble incompréhensible pour un homme doté d'une si grande sagesse et qui avait une telle crainte de Dieu dans sa jeunesse. Il faut croire qu'une grande sagesse et une connaissance approfondie de Dieu ne préservent pas forcément de la folie de l'idolâtrie, car celle-ci plonge ses racines dans le cœur et jaillit des désirs sensuels et de la convoitise de la chair. La condition spirituelle de Salomon est plus complexe que celle de son père, dans la mesure où l'Écriture ne mentionne pas de repentance de sa part, ni de retour sincère au Seigneur. Il est difficile de réfuter l'argument d'un auteur qui s'appelle Illingsgenberg, qui dit « Le premier fruit de sa conversion aurait été de détruire les scandales qu'il avait provoqués. » L'idée selon laquelle Salomon aurait renoué une saine communion avec Dieu ne repose sur aucun récit de repentance. Bien que Ecclésias 12, versets 13 et 14, puisse jusqu'à un certain point accréditer cette thèse. Seule la grâce, la compassion et la puissance de Dieu pourraient l'avoir ramené sur le droit chemin. L'Éternel manifestait un amour particulier pour Salomon, parce que ça dit « David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. Il le remit entre les mains de Nathan le prophète, et Nathan lui donna le nom de Jedidia, qui signifie « bien-aimé de l'Éternel », à cause de l'Éternel. Salomon fait l'objet d'une autre prophétie de Nathan à David. « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. » Cette prophétie a deux promesses. L'une concernant Salomon, l'autre applicable à Christ. L'établissement du royaume de David et de son trône pour toujours se réfère au royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aucun mortel, quel qu'il soit, ne peut régner à jamais. Seul Dieu le peut. Mais le texte parle par ailleurs de mal, d'impiété, de péché et du châtiment que Dieu ne manquera pas d'infliger à ce péché. Dieu promet toutefois de ne pas retirer sa grâce au roi. Il ne peut évidemment s'agir que de Salomon et nullement de Christ. Salomon fut châtié avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Alors qu'il était encore sur le trône, Édom commença à secouer le joug d'Israël à l'instigation de Hadad. Raison prit Damas et les cités voisines à Salomon et fonda un royaume qui devait se révéler très destructeur pour les Israélites. Mais la pire sanction frappa la propre famille de Salomon, car la plus grande partie du royaume allait être arrachée des mains de son fils. Tout l'accomplissement de cette menace se mit en place de son vivant. Le chrétien est-il indemne de la chute dans le péché lorsque, pour une raison ou une autre, il relâche sa vigilance, cesse de veiller et de prier pour ne pas tomber en tentation? Si Dieu est seul à connaître nos manquements personnels, c'est parce que nous ne sommes pas célèbres. Ces chutes prendraient des proportions multipliées par mille. Si nous exercions le pouvoir absolu, que celui qui est sans péché jette le premier la pierre à Salomon. Alors, ce qu'on va faire, on va arrêter là pour aujourd'hui et on terminera tout cela la semaine prochaine.